côte de l'Afrique occidentale, il y a des endroits où les courants de l'océan changent. Là où il n'y avait pas de courant, tout d'un coup, il peut y avoir un courant différent. Et parfois, ces courants viennent de telle manière qu'ils enlèvent le sable des côtes. C'est-à-dire que l'océan avance et la côte recule. La région de Cotonou, au Bénin, est une de ces régions-là. Il y a quelques années, tout d'un coup, les courants ont changé et les courants de l'océan commençaient à grignoter la plage. Avant le début de ce phénomène, beaucoup de gens, surtout les gens riches, qui pouvaient se permettre les propriétés au bord de la mer, ils avaient acheté des terrains et ils ont construit des maisons ou ils ont commencé la construction des maisons au bord de la mer. Et c'est là où ce phénomène de courant s'est installé et la plage, comme j'ai dit, commençait à reculer. Année après année, l'océan avance de quelques mètres, parfois allant jusqu'à 10 mètres, par année. Donc les maisons qui étaient construites à l'époque à 1 km de la plage se trouvent maintenant au bord de la mer. Et ceux qui étaient construits au bord de la mer sont tombés carrément dans la mer. Les maisons étaient construites très solidement, bien bâties, en béton, on ne peut plus solide, mais le sable s'est rongé sous le fondement de ces maisons, et alors les maisons finalement se sont tombées en morceaux, se sont déchiquetées et ont été détruites. J'ai regardé ce processus de mes propres yeux pendant plusieurs visites que j'ai fait à Cotonou, en particulier en regardant une maison qui avait été louée pour la célébration de la fête des tabernacles plusieurs années dans le passé. À l'époque, la maison était assez loin de la mer. Il y avait encore beaucoup de plages entre la maison et l'océan. Mais visite après visite, puisque cette maison était tout près de là où habitent quelques frères et sœurs, je voyais que l'océan avançait. On voyait finalement la mer arriver à la maison. Et la dernière fois que je l'ai vue, la maison était en morceaux et était complètement tombée dans la mer. Elle était détruite. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Eh bien, à la fin de ce que nous appelons le sermon sur la montagne, Jésus nous dit que nous bâtissons tous une maison, symboliquement. Nos vies sont comparées à des maisons. Nous les construisons. Les actions, nos pensées, nos activités, les choix que nous faisons, tout cela contribue au genre de maison que nous construisons. Nos vies, nos existants, présents et futurs, en fait, notre avenir et notre éternité est ou sont déterminés par le genre de bâtiment que nous construisons. Et il a aussi mis l'accent sur l'importance de comprendre sur quoi nous devons bâtir nos maisons, sur quoi nous devons bâtir nos vies. Il a parlé en fait de notre fondement. Et la Bible en parle beaucoup. Le fondement de la vie, sur quoi nous devons nous fonder pour construire notre existence, pour décider comment nous allons vivre, puisque cela détermine l'avenir que nous aurons. Regardons les paroles de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 7. À la fin, comme j'ai dit, de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7, où Jésus donne les principes fondamentaux du christianisme. Matthieu chapitre 7, nous allons commencer à lire au verset 24. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, dit-il, quiconque entend ces paroles que je dis, l'enseignement que le Christ donne, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, on pourrait dire les vagues et les courants de la mer si on pense à cette maison à Cotonou, et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine était grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Ils ne parlaient pas ou ne prêchaient pas avec autorité. Jésus pouvait prêcher avec autorité car il était Dieu dans la chair et il savait exactement de quoi il parlait. Alors nous voyons ici que Jésus dit que nos vies sont comme des maisons. Et quand nous écoutons ce que lui dit, quand nous écoutons le message de la Bible, nous voyons comment nous devons vivre nos vies. C'est comme si nous construisions nos vies sur notre maison, sur un roc, quelque chose de solide qui ne va pas s'ébranler. Mais que si nous écoutons ces paroles et que nous ne les mettons pas en pratique, que nous ne les écoutons pas suffisamment bien, ou que nous n'arrivons pas à les mettre en pratique, alors là, c'est comme si nous construisions nos vies sur du sable. Et là, nous allons, si nous faisons ce choix-là, avoir des ennuis finalement, parce que de telles maisons ne pourront pas tenir. Alors la question que j'aimerais que nous nous posions aujourd'hui, c'est celle-ci. Quel est notre fondement? Sur quoi bâtissons-nous nos vies? Qu'est-ce qui nous guide dans les choix que nous devons faire? Qu'est-ce qui détermine les décisions que nous prenons jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année? Parce qu'en fait, nos vies sont... nos vies sont composées simplement d'une série de décisions, parfois de petites décisions, qui se prennent jour après jour, semaine après semaine, et ainsi de suite. Et nous parlerons un peu de certaines de ces décisions un peu plus loin dans le sermon aujourd'hui. Mais nous bâtissons nos vies sur quel fondement? Ça, c'est la question que j'aimerais que nous considérions aujourd'hui. Le fondement que nous choisissons détermine beaucoup de ce qui va suivre, détermine ce que nous pouvons construire, détermine la grandeur du bâtiment ou l'importance de la maison que nous allons établir dessus. Vous savez, les bâtiments du World Trade Center à New York qui ont été détruits le 11 septembre, quand toute la destruction a été enlevée par les ouvriers, on a pu voir jusqu'à quelle profondeur ils sont allés pour poser le fondement de ces gratte-ciels. Il fallait descendre plusieurs étages sous le sol, afin d'avoir un fondement assez solide pour pouvoir élever des bâtiments aussi immenses. Plus le fondement est solide, plus on peut construire dessus, et plus ça va durer. Le fondement de nos vies, est très important, et cela nous est démontré par des exemples dans la Bible qui parlent de fondements, même de fondements réels, de bâtiments. Par exemple, prenons Esdras chapitre 3. Le contexte de Esdras, c'est dans la reconstruction du temple à Jérusalem. C'est-à-dire que le temple de David et de Salomon était détruit par les Babyloniens, et les Israélites amenés en captivité, les Juifs amenés en captivité, quelques années après, 70 ans après, ils ont pu revenir et ils ont pu commencer à reconstruire un temple. Et quand ils ont vu le fondement posé, les gens qui étaient là ont compris l'importance de ce qui se passait. Esdras chapitre 3, verset 10. Il y avait beaucoup d'émotions au moment où on posait ce fondement. Esdras chapitre 3, verset 10. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, « Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. » Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Verset 12. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison, donc c'est des personnes très âgées, puisque il y a 70 ans, c'était déjà déroulé, et eux, ils avaient des souvenirs de comment était la maison de Dieu qui avait déjà été détruite. Les chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'étendait au loin. Il y avait beaucoup d'émotions qui étaient attachées au fait de poser les fondements d'une maison importante, parce que les gens ont reconnu l'importance symbolique de ce que cela voulait dire. C'était le début de quelque chose de grandiose, le premier pas dans la construction d'un bâtiment qui allait être absolument magnifique. Et il y avait toutes sortes d'émotions mélangées lors de cette occasion-là. Parce que le fondement posé est important. Et il représente d'une certaine manière tout le bâtisse qui finira par être construit dessus. De la même manière, le fondement de notre vie représente ce que nous allons devenir, ce que nous pourrons construire dessus. Et il est très important pour nous de comprendre quel est le fondement sur lequel nous devons construire nos vies, l'œuvre de notre vie. Regardons Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, il y avait une prophétie qui était donnée concernant la venue du Messie, comme il y en a beaucoup dans le livre d'Ésaïe. Dieu a donné beaucoup de prophéties par Ésaïe le prophète concernant ce que Jésus-Christ allait faire lorsqu'il est venu sur la terre. Et une analogie qui était utilisée plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ était qu'il allait être un fondement, il allait être une pierre angulaire du bâtisse que Dieu allait construire en Israël. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. En fait, là, Dieu, par Ésaïe, corrigeait les chefs en Juda à l'époque qui se disaient que par leur alliance avec des pays voisins, ils allaient pouvoir échapper aux envahisseurs babyloniens et autres qui risquaient de détruire le pays. Ils ne voulaient pas mettre leur confiance en Dieu, ils préféraient faire des alliances humaines avec les nations aux alentours. Et ça n'a pas marché, tout comme Ésaïe l'avait prédit. Mais au verset 16, il y a une prophétie qui jetait le regard plus loin dans l'avenir. Verset 16. « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Dieu a dit, vous vous attachez à des futilités, mais moi je vais vous envoyer une pierre angulaire, quelque fondement qui ne va pas s'ébranler, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avec certitude. On peut établir sa vie dessus. Et nous savons, puisque le Nouveau Testament rend tout cela très clair, qu'il est question, en fait, du Messie, de Jésus-Christ. Regardez par exemple 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. À partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Vous savez, quand il y a une pierre angulaire, quand il y a un fondement solide, le bâtiment peut durer très très longtemps. Et dans l'Antiquité, les gens mettaient beaucoup d'attention et beaucoup d'accent sur le fait de poser un fondement solide pour les bâtiments. C'était très important si la maison ou le bâtiment allait durer. Et en fait, la pierre angulaire, cette pierre de prix, de taille, qui n'allait pas bouger, nous voyons ici, par les paroles de Pierre, de qui il était question. Verset 1 de 1 Pierre 2. « Rejetons donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Quel est le fondement dont il est question? Ésaïe parlait de quoi dans Ésaïe 28? Eh bien, il parlait simplement de Jésus-Christ. Il est la pierre angulaire sur laquelle nous voulons construire l'œuvre, toute la construction de nos vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'Antiquité, on mettait beaucoup d'accent sur le fait d'avoir une fondation, un fondement solide. Dans l'été de l'année 2000, nous avons eu l'occasion de participer à une fouille archéologique à Ashkelon, en Israël, un peu au nord de la bande de Gaza. En fait, on entendait des hélicoptères palestiniens, israéliens qui passaient par-dessus nos têtes presque tous les jours. Il y avait beaucoup d'activités. Et nous étions en train de fouiller des ruines de l'époque de David et de Salomon. Donc, environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Et c'était vraiment quelque chose d'assez étonnant que de pouvoir creuser dans le sol et tomber sur le fondement de bâtiments qui n'existaient plus depuis 3000 ans. Alors, les choses que l'on trouvait étaient âgées de 3000 ans. Mais vous savez, une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que parfois, en creusant, on trouvait encore les fondements de ces maisons. La maison avait disparu, mais les fondements étaient tellement solides qu'on pouvait tracer, on savait où étaient les murs de ces maisons. 3000 ans après, les fondements étaient encore là. Parce que les gens faisaient beaucoup attention à cela. Ils savaient que si le fondement n'était pas solide, le bâtiment n'allait pas durer. Eh bien, la Bible nous montre que la pierre angulaire, le fondement qui ne va jamais bouger pour nous, c'est Jésus-Christ. Nous devons connaître la vérité à propos de lui et à propos de l'enseignement qu'il a apporté, qu'il nous a transmis par la Bible, car ce sont sur ce fondement-là, c'est sur ce fondement-là que nous devons construire et vivre nos vies. Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus a dit quelque chose de semblable à propos de l'Église. Matthieu chapitre 16. Verset 17. Matthieu chapitre 16, verset 17. De nouveau, il est question de construction sur une pierre qui n'allait pas bouger. Matthieu chapitre 16, verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est-à-dire, vous verrez dans les versets un peu plus haut, que Jésus était le Messie, le Christ, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et le nom Pierre voulait dire une petite pierre. Et Pierre allait avoir une certaine importance dans la construction de l'Église qui viendrait après. Pierre avait son rôle à jouer, mais Jésus continue et dit, et que sur ce roc, et là c'est un mot différent, Pierre vient du mot grec Petros, qui veut dire une petite pierre, mais là Jésus a dit, sur ce Petra, ce grand, très très grand rocher, c'est sur cet rocher-là, sur ce roc, que je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévauront point contre elle. Vous savez probablement que l'église catholique pense que les deux pierres c'est le même, et que Jésus a construit l'église sur pierre. C'est pour ça que les papes à Rome se considèrent comme le successeur de Pierre, qui est en fait le chef de l'église. C'est comme ça qu'ils regardent ce verset, comme ils voient ce verset. Mais en fait, nous ne voyons pas le choix de mots différents, que Jésus a dit, toi tu es pierre, tu es une petite pierre, tu as ton rôle à jouer, mais c'est sur ce roc, il parlait de lui-même, que l'Église allait être construite. C'est Jésus-Christ qui est le chef de l'Église. Et tout est construit, tout le bâtisse de l'Église qui est là, est établi sur le fondement de Jésus-Christ lui-même. C'est toujours lui qui doit être la pierre angulaire de nos fondements. Regardons un autre passage qui parle dans ces mêmes termes, Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Parce que selon certaines analogies, comme nous allons le voir ici, nous faisons partie d'un bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment de l'Église. L'Église est aussi comparée à une grande maison. Donc nos vies individuellement sont comme des constructions. L'Église aussi est comme une construction. Mais dans toutes ces constructions symboliques, Jésus-Christ est toujours la pierre angulaire. Il est toujours le fondement. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes un temple. Nous faisons tous partie d'un temple si nous sommes fondés sur le bon fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ comme pierre angulaire et aussi les apôtres et les prophètes. Autrement dit, la Bible. C'est une autre manière de dire ça. Les prophètes pourraient représenter ce que nous appelons parfois l'Ancien Testament, les apôtres pourraient représenter ce que nous appelons le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible. Alors là, nous commençons un peu mieux à saisir ce que ça veut dire être fondé sur cette pierre angulaire. C'est-à-dire que nos vies doivent être fondées sur les instructions que nous avons dans la Bible. c'est la Bible qui doit guider les choix que nous faisons. C'est la Bible qui doit déterminer comment nous vivons nos vies. Ce sont les instructions qu'il nous faut. Comme Jésus a dit, nous l'avons lu avant dans Matthieu 7, celui qui met en pratique ces paroles que je dis, c'est celui qui construit sur le roc. Nous devons donc vivre par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autre chose que Jésus avait dit quand il était tenté ou testé, si vous voulez, par Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, nous commençons donc à voir de plus en plus clairement ce que cela veut dire. Nous devons être fondés sur Jésus-Christ, ce qui veut dire être fondés également sur les paroles qu'il dit, et aussi sur les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire toute la parole de Dieu, la Bible, du début à la fin. C'est ça qui doit guider la construction de nos vies. D'autres passages nous donnent encore plus de détails sur ce que cela veut dire. Prenez Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. Ici aussi, il sera question de fondement. Sur quoi nous devons être fondés? Colossiens chapitre 1, verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Là aussi, ça doit faire partie de notre fondement. Nous devons être fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. Une autre partie de notre fondement, c'est-à-dire qu'il y a un seul fondement, mais il y a différents aspects de ce fondement que nous devons comprendre. Un autre aspect, c'est la foi. C'est la conviction, la confiance absolue dans les promesses de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, nous avons confiance que c'est tout à fait vrai. Et on peut même aller un pas plus loin, car il y a un autre passage qui nous dit sur quoi notre foi doit être fondée. Ici, c'est marqué qu'il nous doit être fondé dans la foi, mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, un autre passage nous dit sur quoi notre foi doit être fondée. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Notre foi doit être fondée sur quoi? Comment pouvons-nous avoir la foi qu'il nous faut? Nous savons que c'est un don de Dieu, ça fait partie du fruit de l'esprit, mais il y a un autre indice qui nous est donné, d'autres informations. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1. Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Notre foi, nous devons être fondés dans la foi, ça nous avons déjà vu, mais notre foi doit être fondée dans la puissance de Dieu. C'est-à-dire de nous rappeler de ce que Dieu a fait dans nos vies, les grandes œuvres qu'il a accomplies, les miracles qu'il a accomplis dans la vie de tout un chacun. Dieu a déjà fait des miracles dans nos vies, à nous tous, à un moment donné ou à un autre. Le malheur, c'est que parfois nous oublions ces choses, les choses qui nous ont tellement encouragés à un moment donné, qui étaient tellement frappants pour nous quand Dieu commençait à intervenir dans nos vies, à ouvrir nos esprits, de pouvoir comprendre sa parole. Peut-être une guérison miraculeuse, peut-être une autre intervention de Dieu qui nous a montré, qui nous a secoué, nous a montré vraiment la puissance de Dieu dans nos vies. Nous devons garder nos yeux fixés sur ces choses-là. Ma femme disait l'autre soir qu'elle aime bien noter, tenir un journal et noter les choses que Dieu a fait dans sa vie, pour l'aider à se rappeler des grands miracles, des miracles que Dieu a accomplis pour elle. Et c'est une chose que je fais également. Je tiens un journal, non seulement de ça, mais entre autres choses, quand Dieu intervient pour m'aider, je note ça. Et c'est très encourageant par la suite de relire, de remettre en mémoire la puissance que Dieu a déjà manifestée dans nos vies. Si vous n'avez pas fait une chose comme ça, j'aimerais vous encourager de temps en temps à le faire. Tout le monde n'est pas écrivain, vous n'avez pas besoin de faire tout un livre nécessairement, mais quand il y a quelque chose que Dieu a fait, quelque chose d'encourageant, notez-le pour ne pas l'oublier. Parce que notre foi doit être fondée dans la puissance de Dieu. Ça veut dire l'intervention par son Saint-Esprit, mais ça veut dire aussi simplement de nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Ça renforce notre foi. Et nous devons avoir nos vies fondées sur la foi, sur la confiance dans les promesses de l'Éternel. Donc ça, c'est un autre aspect de notre fondement dans la vie. Nous devons fonder nos vies dans la foi. La conviction que Dieu tient sa parole, que nous pouvons lui faire confiance plus qu'à nos propres yeux. Et notre foi doit être fondée non pas sur les raisonnements humains, mais sur la puissance de Dieu, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2. Maintenant, allons un peu plus loin dans 1 Corinthiens, parce que nous avons déjà établi que le fondement, ce n'est pas nous qui posons le fondement, c'est Dieu qui établit le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est la foi de Dieu qui nous donne. Mais nous devons faire attention de savoir comment nous allons construire sur ce fondement. Le fondement est donné par Dieu, mais la construction dessus dépend en partie de nous, de nos décisions, de nos efforts. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9. Maintenant, en lisant ceci, nous devons comprendre que le contexte avant tout concerne les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire le ministère. Mais il y a aussi une application de ce passage à nous tous individuellement, c'est-à-dire que le ministère a une certaine responsabilité d'aider les frères et sœurs, mais nous avons des responsabilités chacun individuellement pour nos propres vies. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Le fondement est posé par Dieu, par ses serviteurs, enfin l'explication de ce qui est dans la Bible. Mais chacun doit faire attention comment il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement de la vie de tout chrétien. Là, si vous voulez, nous n'y pouvons rien. C'est déjà fondé, c'est le seul possible. Mais nous devons faire attention comment nous bâtissons dessus. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou alors du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. On peut construire durablement. On peut construire des choses qui ne vont pas durer dans le temps. Car le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire que les épreuves de la vie vont venir et ça sera comme des orages, comme des tempêtes, comme le feu qui va éprouver la construction que nous aurons établie sur ce fondement de Jésus-Christ. Nous devons construire nos vies de telle manière à ce qu'elles résistent aux épreuves qui arrivent dans la vie de tout le monde. Alors, c'est une mise en garde pour nous ici, de faire attention comment nous bâtissons dessus. C'est une mise en garde pour le ministère, de prendre au sérieux leur œuvre, leur travail, mais aussi une mise en garde pour nous tous dans nos vies individuelles. Nous devons faire attention comment nous construisons sur le fondement qui est Jésus-Christ. Vous savez, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à vivre dans le centre des États-Unis, notamment dans la vallée des grands fleuves comme le Mississippi et le Missouri. Et il arrivait, quand j'étais garçon, d'ailleurs il arrive encore aujourd'hui, qu'il y ait des inondations dans ces fleuves qui sont absolument énormes. Le Mississippi parfois peut avoir jusqu'à 2 km ou 3 km de largeur. C'est un fleuve incroyable. Et quand il y a des inondations peuvent être très puissantes, et j'ai le souvenir d'avoir vu des maisons qui ont été complètement détachées de leur fondement et emportées par la rivière, par le fleuve. C'est-à-dire que vous voyez des images, peut-être que vous avez déjà vu ça, des images à la télé, de maisons qui flottaient dans le fleuve et qui étaient emportées. Le fondement était solide. Le fondement de la maison est toujours là après les inondations. Mais la maison n'a pas été suffisamment fortement attachée au fondement qu'il avait eu. Et c'est là où nous aussi nous devons faire attention. Le fondement est là, le fondement ne va pas bouger, mais nous devons faire attention d'être assez bien attachés à ce fondement pour ne pas être ébranlés et emportés quand les difficultés viennent. Il est très important pour nous de rester attachés à ce fondement qui ne bouge pas, la pierre angulaire qui ne bouge pas. Ce qui nous amène à la question suivante, question pratique. Quelles sont les choses qui pourraient saper notre fondement dans la vie? Ou plutôt, puisque nous savons que le fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, on ne peut pas saper ce fondement-là, lui, ça reste et ça ne bougera jamais, qu'est-ce qui pourrait nous détacher du seul vrai fondement de la vie? La Bible nous met en garde, la Bible nous explique certaines choses contre lesquelles nous devons être en garde, contre lesquelles nous devons faire attention. Quelles sont les choses qui pourraient nous détacher et nous faire emporter un peu comme ces maisons qui partent dans le Mississippi ou le Missouri pendant ces inondations? Bien, prenons quelques exemples, quelques passages qui devraient nous servir de mise en garde en ce qui concerne le fait de rester attaché au seul vrai fondement. Je vais prendre 2 Timothée chapitre 2 pour commencer. 2 Timothée chapitre 2. C'est 2 Timothée chapitre 2, verset 16. Paul explique une chose ici à Timothée, jeune ministre, que Paul considérait un peu comme son fils dans la foi. Il dit à Timothée au verset 16 de 2 Timothée 2, « Évite les discours vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, notez bien le verset 19, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Il y a deux choses qui sont mises en opposition dans ce passage. Vous l'avez noté ça? Le solide fondement posé par Dieu subsiste. Ça ne bouge pas. Ce fondement est toujours là. Mais il met cela en opposition à ce qui s'est passé à travers l'action de Hyménée et Philète. C'est-à-dire que c'était des gens qui tenaient des discours vains et profanes. Ils avaient leurs propres idées sur des choses. Et ils ont réussi à renverser la foi de quelques-uns. Dans ce cas précis, c'était de dire que la résurrection était déjà passée. C'est-à-dire, la première résurrection, je suppose, ils croyaient que c'était déjà accompli, peut-être dans la personne de Jésus-Christ. Ils mélangeaient d'autres idées philosophiques là-dedans. C'était des membres qui étaient dans l'Église, qui ont eu d'autres idées et qui ont réussi à renverser la foi de certaines autres personnes. Alors, qu'est-ce qui est mis en opposition ici? Le solide fondement de Dieu qui subsiste était combattu par des discours vains et profanes, c'est-à-dire des discussions qui ont renversé la foi de quelques personnes, qui ont semé des doutes. Alors, quelle est la leçon pour nous? Nous devons faire attention à ce genre de discours vains et profanes, c'est-à-dire nous devons faire attention à ce que nous écoutons et à ce que nous lisons. Nous voulons garder précieusement notre foi et notre confiance en Dieu. Nous devons éviter de lire des choses qui vont nous troubler, qui vont nous faire douter, qui vont semer le désordre dans notre esprit. Et il y a beaucoup de gens là, même des gens qui faisaient partie de l'Église de Dieu de par le passé, qui disséminent aujourd'hui toutes sortes de théories différentes, et eux aussi encore aujourd'hui dans ce 21e siècle. Il y a des gens comme Hyménée et Philète qui réussissent à renverser la foi de quelques-uns. Il est très important pour nous de rester sur le fondement la parole de Dieu, la Bible, et éviter des choses qui vont nous troubler ou nous faire douter. Nous voulons protéger notre foi. C'est très important. Beaucoup de choses sont écrites par différentes gens, parfois des gens qui étaient dans l'Église dans le temps, parfois c'est des gens qui n'étaient jamais dans l'Église, mais écrivent des choses qui peuvent troubler. Et nous ne voulons pas troubler notre foi. Ce n'est pas que nous devons vivre en ermite et refuser d'ouvrir quelque chose qui pourrait avoir une idée différente, mais nous ne voulons pas nous plonger dans ces choses-là. Il n'y a rien de bon qui en résulte. J'ai trouvé un proverbe intéressant à ce sujet. Regardez Proverbe 19. Proverbe 19, verset 27. Proverbe chapitre 19, verset 27. Salomon dit ici dans ce proverbe, « Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. » Intéressant ça, n'est-ce pas? On aurait, à première vue, on penserait, mais l'instruction c'est toujours bon. C'est toujours bon de s'inspirer d'autre chose, de chercher plus loin. Eh bien, parfois non. Il y a une espèce d'instruction, comme nous voyons dans ce proverbe-ci, il y a une espèce d'instruction qui en fait a pour résultat de nous éloigner de la vraie science, la vraie connaissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sèment le doute. Parfois ils le font exprès, parfois ils ne le font pas exprès. Mais ce n'est pas quelque chose qui nous est utile. Et en fait, ça peut nous détacher du fondement. Et notre fondement, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est là où nous voulons à tout prix rester attachés. Alors, frères et sœurs, ce que nous voyons par ces passages ici, c'est que nous devons protéger notre confiance en Dieu. Nous devons protéger notre foi, notre relation personnelle avec l'Éternel, et ne pas nous plonger dans quoi que ce soit qui pourrait ébranler cela, qui pourrait nous détacher de notre fondement. Que ce soit des choses séculaires dans le monde, que ce soit des théories différentes à propos de la Bible, que ce soit des théories différentes apportées par des gens qui ont quitté l'Église ou quitté l'enseignement fondamental de l'Église. La Bible nous met en garde contre cela. Rappelez-vous ce que Paul a dit. Le fondement subsiste, mais il y a des gens qui ont été renversés par de vains discours. Alors à nous de faire attention et de ne pas nous laisser entraîner par ce genre de choses. Une autre chose qui pourrait nous détacher de notre fondement, relisons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24. Nous avons lu ceci au début, il est question des deux maisons ici. Mais nous allons voir à travers ces paroles une autre chose qui pourrait en fait nous empêcher d'être solidement enracinés sur le fondement qu'il nous faut. Relisons Matthieu 7, verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » C'est ça que nous voulons. « La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Comment? Quelle était la clé pour être fondée sur le roc? Qu'est-ce que Jésus a dit? Cela équivaut à quoi? Eh bien, c'est celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique. Ça, c'est l'équivalent d'être fondé sur le roc. D'entendre et de mettre en pratique les paroles que nous voyons dans la Bible, l'enseignement de Jésus-Christ. En revanche, verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Si ou on refuse d'écouter, ou si on écoute, mais par faiblesse, ou par paresse, ou par une autre raison, on ne le met pas en pratique, nous ne sommes pas fondés sur le bon fondement. Nous ne sommes pas attachés au roc comme nous devons l'être. Comment est-ce que nous écoutons, comment est-ce que nous mettons en pratique? Ça commence par l'étude de la Bible, ça commence par la prière, ça passe aussi par la réflexion. Quand nous lisons la Bible, nous devons nous poser la question, comment est-ce que cela s'applique à ma vie de tous les jours? Quand je lis tel ou tel verset, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça doit changer dans mon comportement aujourd'hui? Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous prenons des décisions chaque jour qui déterminent le cours de notre vie. Parfois, c'est des questions toutes simples. Par exemple, vais-je étudier la Bible aujourd'hui? Ça peut sembler peut-être à première vue pas très important, mais si jour après jour nous nous posons cette question et la réponse est plus tard, je ferai ça à un autre moment, pas aujourd'hui, eh bien finalement ça détermine le cours de notre vie, nous nous éloignons de Dieu. Vais-je étudier la Bible aujourd'hui? Vais-je prendre le temps ce matin ou ce soir de prier, d'avoir ma vie attachée à mon Père Céleste par ce contact? Vais-je prendre le temps aujourd'hui de réfléchir à ce que la Bible dit, ce que j'ai étudié aujourd'hui, pour savoir comment je peux appliquer ça dans ma vie? Vais-je prévoir un jour de jeûne de temps en temps pour me rapprocher de mon Père? Si nous n'étudions pas la Bible, en fait, nous n'écoutons pas vraiment les paroles de Jésus-Christ. Ça ne doit pas être quelque chose qui se passe uniquement le sabbat. Ça doit être quelque chose qui se passe chaque jour de nos vies, d'écouter ces paroles et d'étudier aussi comment nous pouvons les mettre en pratique. Passer aux actes, c'est ça qui compte. Je vais mélanger un petit peu les analogies ici, mais je trouve qu'il y a une autre chose qui est intéressante pour nous, c'est dans Matthieu chapitre 13, car il est question ici de quelqu'un qui n'a pas de racines. Et on peut faire la comparaison entre quelqu'un qui n'a pas de racines avec quelqu'un qui n'est pas solidement attaché à son fondement. Il n'est pas enraciné dans le fondement comme il devrait l'être. Matthieu chapitre 13, verset 18. Matthieu chapitre 13, verset 18. C'est la parabole du semeur ici. Et Jésus donne l'explication. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne le comprend pas, le malin vient et enlève ce qui était semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Il n'a pas de racine. Il n'est pas vraiment fondé sur le fondement. C'est comme ces maisons qui sont posées sur un fondement, mais lorsque les eaux arrivent, les eaux emportent la maison loin du fondement sur lequel elle a été construite, parce qu'elle n'était pas assez solidement attachée. Ça vient de quoi qu'on n'a pas de racines? Eh bien, ça revient à ce que nous avons déjà vu. C'est de ne pas écouter et de ne pas le mettre en pratique. Et aussi de ne pas se prémunir contre ce qui est marqué là dans le verset 20 et 21, il y aura des tribulations, il y aura parfois des persécutions, et nous devons nous préparer à cela. Nous devons savoir que le jour viendra quand il va devenir difficile de faire ce que Dieu nous demande de faire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vraiment eu à faire face à la persécution, des désagréments de temps en temps, des gens qui nous font des petits commentaires ou qui n'approuvent pas ce que nous faisons, mais on ne peut pas vraiment appeler ça la persécution, c'est désagréable. Mais le moment viendra quand il y aura des tribulations, il sera vraiment difficile. Nous devons le savoir et nous devons être en train de nous préparer pour cela, de nous dire que ces moments vont venir et c'est maintenant le moment vraiment d'établir une relation solide avec notre Père, de mettre des racines là sur le fondement pour que lorsque les moments difficiles arrivent, nous ne soyons pas emportés loin. Il est important pour nous, frères et sœurs, si nous voulons rester solidement ancrés au fondement, d'écouter ce qu'il dit et de mettre en pratique ce qu'il dit. La Bible doit vraiment faire partie de nos vies. Je vais prendre l'exemple un instant de mon père. Lui ne va pas savoir que j'utilise cet exemple. Mais une chose qui m'a toujours frappé chez mon père et que j'ai observé dans ma jeunesse, c'est que pour mon père, l'étude de la Bible était une activité tout au long de la journée. C'est-à-dire que quand il se levait le matin, il descend lire quelque chose dans la Bible, il réfléchit. Et puis il va aller faire autre chose. Et puis il revient quelques heures après, il revient revoir le passage qu'il a étudié. Et très souvent, je me souviens quand j'étais garçon, à tout moment de la journée, je pouvais descendre dans le bureau de mon père et il était en train d'étudier la Bible. Pas uniquement pour préparer un message, il était ministre à l'époque, mais simplement c'était une passion pour lui. Il vivait avec la Bible, dans la Bible, tout au long de la journée. Il venait pour quelques minutes lire, puis partait faire ce qu'il avait à faire. Et puis il revenait aussi pour revoir quelque chose. Il réfléchissait tout au long de la journée. Et cet exemple-là m'a toujours frappé. Et je trouve que ce genre de relation passionnée avec la Bible, c'est quelque chose que nous devons avoir. Nous devons avoir un amour vraiment de la parole de Dieu, une affaire passionnée avec la Bible. Ça doit faire partie de la vie et pas simplement être quelque chose que nous faisons entre 7h et 7h30 du matin et puis c'est fini. Ça doit être quelque chose qui est à notre esprit tout au long de la journée. C'est comme ça que nous établissons des liens profonds et des racines dans la voie de Dieu. Alors, ça c'est donc une deuxième chose que nous voyons. Qu'est-ce qui pourrait nous détacher de notre fondement? C'est si nous n'écoutons pas et si nous ne mettons pas en pratique les paroles que Jésus nous donne, que la Bible nous donne. Ça va nous détacher du fondement. Une troisième chose que nous voyons se trouve dans 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Il est, encore une fois, question de fondement, ici, fondement solide, et Paul dit à Timothée de mettre en garde certaines personnes, car il courait un danger de ne pas être sur ce fondement solide, de s'écarter de ce fondement solide. 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. Verset 17. Paul dit, « Recommande aux riches du présent siècle » Il fait la différence parce qu'on peut être riche du présent siècle et ne pas être riche dans le siècle à venir. « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et la générosité, et de s'amasser ainsi, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle, la vie véritable plutôt. » Comment est-ce qu'eux, ils devaient construire quelque chose de bien sur le fondement solide? Eh bien, c'était de mettre l'accent sur ce qui est spirituel et non pas ce qui est physique. Mais ce n'est pas ce qui vient naturellement à l'esprit des êtres humains, n'est-ce pas? L'homme, dans son état naturel, est plutôt charnel et ses pensées sont axées sur des choses physiques. Mais ce qui est plus important, ce qui est mis en opposition ici, c'est les richesses physiques, tout ce qui est matériel. Et puis, de l'autre côté, nous avons le fait de faire des bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Ça, ce sont des valeurs chrétiennes, mais pas forcément des valeurs dans le monde. Alors, il est facile pour certains d'entre nous, et ce sermon sera entendu dans beaucoup de milieux différents. Ce sera entendu par des Africains qui vivent dans des situations relativement pauvres. Ce sera entendu par des Européens, par des gens en Amérique du Nord, avec des situations très différentes. Mais quel que soit notre niveau économique, si vous voulez, il est possible pour nous de mettre trop d'accent sur ce qui est physique. Il est possible que ce qui est physique, le désir d'acquérir plus de choses physiques, ça peut toujours être un danger pour nous, quel que soit notre niveau. Et beaucoup d'entre nous sont plus riches que nous ne pensions. Si on comparait notre situation actuelle avec la situation des gens qui vivaient à l'époque des apôtres, au premier siècle, nous vivons dans un luxe incroyable, la plupart d'entre nous. Même dans les pays africains, il y a beaucoup plus de choses disponibles pour eux que ce qui était disponible pour les gens à l'époque de l'apôtre Paul. Des radios, des télévisions, l'abondance de vêtements pas chers, etc., etc. La vie est plus facile pour nous qu'elle ne l'est pour la plupart des chrétiens qui vivaient au premier siècle. Et je répète, quel que soit le niveau physique que nous avons, le niveau économique que nous avons, le désir d'en avoir plus est toujours un danger. Et ça peut nous détacher du fondement, le fondement de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ, parce que là, ce fondement se trouve dans les valeurs spirituelles et non pas les valeurs physiques. Alors, quelle est cette chose qui pourrait nous détacher du fondement? C'est d'avoir l'esprit trop axé sur le physique, le matériel, et pas assez sur le spirituel. Et finalement, une autre chose qui pourrait nous détacher du fondement si nous ne faisons pas attention, mais si nous faisons attention, peut nous aider à être plus solidement ancrés. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11.
Hébreux chapitre 11, verset 10. Mais prenons le verset 8 pour ne pas couper le contexte de trop ici. Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car, verset 10, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Comment est-ce que Abraham pouvait s'attacher à ce fondement, en ce cas-ci le fondement à venir, c'est-à-dire le royaume de Dieu, symboliquement? Eh bien, il avait les yeux fixés sur l'avenir. Il n'avait pas les yeux fixés sur le moment, sur le présent. Il avait les yeux fixés sur l'avenir, sur le royaume de Dieu à venir. Et ça, frères et sœurs, c'est une clé pour nous aussi. Pour rester attachés au fondement, la Bible, la parole de Dieu, Jésus-Christ, nous devons garder nos yeux fixés sur le royaume de Dieu à venir. Nous devons regarder vers l'avenir et pas permettre à nos yeux de baisser au point de simplement regarder aujourd'hui. Si nous regardons trop le présent, si nous vivons uniquement dans le présent sans penser à l'avenir, nous allons nous détacher du fondement. Parce que l'enseignement de Jésus-Christ pointe nos yeux vers le royaume de Dieu, le retour de Jésus-Christ, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Et ça aussi, c'est une connaissance qui doit être avec nous et en nous chaque jour de nos vies, du matin au soir. De savoir que nous allons vers quelque chose de meilleur, que nous nous préparons maintenant pour ce que nous aurons à faire au moment du retour de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons pas simplement regarder ce qu'il y a aujourd'hui dans nos vies. Nous devons vivre dans le contexte de l'avenir. Ça, c'est une chose qui peut ou nous détacher de notre fondement ou nous ancrer encore davantage dans le fondement qui est Jésus-Christ et son enseignement. Toujours avoir nos yeux fixés sur le royaume de Dieu. C'est notre espoir, c'est notre joie, c'est notre but. C'est pourquoi nous vivons nos vies comme nous les vivons. Parce que nous avons envie d'entrer dans le royaume de Dieu et dans la famille de Dieu. J'ai trouvé un proverbe en préparant ce sermon que j'ai trouvé, qui m'a frappé. J'avais jamais vraiment prêté attention de la même manière que dans ce contexte. Regardez Proverbes chapitre 10, s'il vous plaît, verset 25, puisque j'ai fait une étude sur les fondements, parce qu'il est beaucoup question de fondements dans la Bible. Proverbes chapitre 10, verset 25. Et c'est une promesse pour nous aussi. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. C'est une promesse que Dieu ne permettra pas que nous soyons ébranlés. Nous n'allons pas passer comme un tourbillon. Si nous sommes justes, c'est Dieu qui nous justifie, c'est à travers nos rapports avec lui, avec Jésus-Christ, que nous pouvons être considérés comme justes. Mais alors, quand nous sommes dans cette situation-là, Dieu nous donne des fondements éternels. Car lorsque nous sommes ancrés dans sur le vrai fondement, les choses que nous avons vues aujourd'hui dans ce sermon, alors il sera question de vivre pour l'éternité. C'est comme ça que nous aurons des fondements éternels. Nous aurons une vie éternelle dans la famille de Dieu. Alors qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui à propos de nos fondements? Nous avons vu que la vie chrétienne n'a qu'un fondement possible. C'est Jésus-Christ, c'est son enseignement, c'est la foi en Dieu, le rapport avec lui, et cette foi qui est construite sur la puissance de Dieu, et non pas sur les raisonnements humains. Et nous avons vu aussi des clés pour rester attachés à ce fondement, pour que nous ne soyons pas emportés loin. Nous voulons être bâtis sur le bon fondement. Nous devons reconnaître quel est ce fondement. Nous devons éviter tout ce qui peut affaiblir notre foi, car ça peut nous emporter loin du fondement. Nous devons écouter, c'est-à-dire étudier la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu, et nous devons chercher des moyens pour les mettre en pratique. Ça doit être le travail de chaque jour de nos vies. Nous devons éviter la distraction qui peut venir du matérialisme, le désir d'avoir plus de quelque chose de physique, quel que soit notre niveau économique. Et nous devons garder les yeux toujours fixés sur l'avenir, le retour de Jésus-Christ, l'établissement du royaume de Dieu, et l'éternité que nous aurons dans la famille de Dieu quand nous aurons part à la première résurrection. Si nous gardons ces choses à l'esprit, si nous les mettons en pratique chaque jour de nos vies, eh bien, comme nous avons lu dans les Proverbes, nous aurons des fondements éternels.
Psalm